En fait, je ne savais pas exactement à quel endroit tu allais t'arrêter, parce que je voulais commencer aussi, avant d'aborder le psaume 51, le péché d'une manière un peu plus générale. Je voulais commencer au passage où après le réquisitoire de Nathan, David dit: j'ai péché contre l'Éternel. Alors, je ne sais pas si je dois le lire parce que tu vas l'aborder. D'accord, ok. Alors, effectivement, c'est un passage difficile. Mais c'est dans 2 Samuel 12, verset 10. Désormais, donc c'est le réquisitoire de Nathan, désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel: je vais faire sortir de ta famille le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes femmes pour les donner à un autre qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. Donc David dit à Nathan: j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan lui répondit: l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Alors, selon la loi de Moïse, David aurait dû mourir deux fois. Et oui, et pour revenir à ce que tu disais, Michel, et Nathan s'est basé sur la parole de Dieu pour dire: tu ne mourras pas, en fait. Parce qu'il aurait dû mourir. Et ça allait au-delà de les droits que les rois s'étaient arrogés de pouvoir faire mourir qui voulait. Et puis de se passer de la justice de Dieu. Mais comme tu disais tout à l'heure, Nathan est vraiment revenu sur la parole de Dieu. Donc, effectivement, David méritait de mourir, selon la Bible, selon la loi de Moïse. Donc, on voit que, par exemple, pour la question de l'adultère, il y a un verset dans Lévitique 20, verset 10, qui dit effectivement que les deux personnes qui se livrent à l'adultère. Méritent la mort, quoi, qu'elles doivent mourir. Et on sait bien que donc le meurtre commandité le meurtre d'Uri commandité par David aussi mérite la mort. Il y a un passage qui dit cela dans Lévitique 24, verset 17. Donc David lui dit, Nathan lui dit: tu ne mourras pas. Remarquez que David ne dit pas: j'ai péché contre Uri et Bathsheba. Mais David avait tellement conscience qu'il avait fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et ça, c'est un des versets du psaume 51, c'est le verset 6, qu'il avait méprisé l'Éternel, on vient de le lire, selon la parole prophétique de Nathan, que son plus grand désir était de s'humilier devant Dieu afin de restaurer sa relation avec lui. Nous pourrons constater dans les chapitres suivants que bien que le Seigneur pardonne son péché, David en subira les conséquences, à commencer par la mort du bébé issu de l'adultère, puis le malheur dans sa famille, des choses difficiles vraiment, viol de Tamar, une de ses filles, par un de ses fils Amon, le meurtre d'Amon par Absalom, un autre de ses fils, donc Absalom, et encore des années plus tard, la rébellion d'Absalom qui fait un coup d'État contre son père, allant même jusqu'à coucher avec les concubines du roi. Ceci est l'accomplissement de ce que Nathan lui avait déclaré: voici ce que l'Éternel dit, l'Éternel, je vais faire sortir de ta famille, comme je viens de lire, le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera au grand jour avec elles. Donc c'est dans 2 Samuel 11. Hein. Donc je ne vais pas essayer aujourd'hui de commenter les raisons pour lesquelles le Seigneur laisse David dans cette situation, mais on peut dire avec certitude que quand Dieu nous corrige, discipline, c'est toujours son amour qui le motive. Bien que nous soyons dans l'ancienne alliance, où la grâce n'avait pas encore été révélée au travers de son fils. J'aime beaucoup ce verset qui parle de la grâce, qui dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la révélation de la grâce, c'est sûr que ce n'était pas encore ça à l'époque de David. Pour mémoire, péché, c'est manquer le but, rater la cible. C'est un mot que nous trouvons partout dans la Bible, comme nous le savons. Mais il est souvent pour nous tellement difficile à reconnaître et encore plus à confesser. Et pour revenir à ce que tu disais, Michel, le Seigneur s'est servi d'une scène familiale à David, l'univers des moutons, pour toucher son cœur et le sortir de son endurcissement, aveuglement, lié à son péché. On peut se demander comment un tel homme, un homme tel que David, qui marchait dans le droit et la justice, comme il est écrit dans 2 Samuel 8, verset 12, a pu en arriver là. Prenez garde à ce qu'aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché, nous dit l'auteur des Hébreux au chapitre 3, verset 13. Quand on se tourne vers le péché, on se détourne de Dieu. Mais on revient à lui, donc à Dieu, en se détournant du péché. Le retour à Dieu est souvent synonyme de repentance dans les Écritures. Le Seigneur se sert de paroles prophétiques, paroles de connaissance, pour nous amener à la repentance, pour nous faire revenir à lui quand notre cœur est endurci. Mais il aimerait mieux nous convaincre de pécher personnellement pour éviter de nous exposer, comme il l'a fait pour le roi David. Dans Matthieu 18, versets 15 à 17, on peut voir les trois étapes progressives de la discipline dans l'Église. « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. » S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi deux ou trois personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Et s'il refuse de t'écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple ou le collecteur d'impôts. Dans ce passage, pour moi, on voit toute la sensibilité du Seigneur pour éviter de nous exposer. Il ne fait pas ça de gaieté de cœur, comme disait Michel. Si ton frère a péché, va le reprendre. Etc. Il y a toutes ces étapes qui font que le Seigneur ne prend pas plaisir à nous exposer publiquement. C'est vraiment le dernier recours. Alors, au fait, qu'est-ce que la repentance ? C'est un mot qui vient du grec « métanoïa », qui veut dire « changement de pensée ou d'intention ». C'est la tristesse que l'on éprouve de ses péchés, de la douleur d'avoir offensé Dieu. À noter que si la foi est essentielle au salut, elle doit être accompagnée d'une vraie repentance. Il faut les deux. Marc 1, verset 15, « Repentez-vous et croyez. » Quand nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit. Et c'est sa tristesse que nous pouvons ressentir. Cette même tristesse qui doit nous conduire à la repentance. Face à la parole du prophète Nathan, David avait trois possibilités. Nier, donc ce qu'on appelle le déni. Se justifier, trouver des circonstances atténuantes, comme Adam, il aurait pu dire « c'est à cause de la femme qui se baignait tout près de moi sans se cacher ». Ou Saül, le roi Saül, comme Adam et Ève qui avaient remis la faute sur l'autre. Vous vous rappelez, Adam avait dit « ah, c'est pas moi, c'est à cause de la femme que tu as mis à côté de moi ». Et Ève dit « mais c'est pas moi, c'est le serpent ». Donc David, lui, avait reconnu sa culpabilité sans essayer de se défendre, se justifier. Et je me suis permis de reprendre un petit passage que Michel avait déjà étudié. C'est l'histoire du roi Saül, pour comparer un petit peu les deux attitudes. C'est dans 1 Samuel 15, si vous voulez le prendre, comme ça vous pourrez suivre avec moi. Donc, les situations sont très similaires. Deux rois ont péché, un prophète apporte une parole du Seigneur pour les reprendre et annoncer les conséquences de leur péché. Contexte, le prophète Samuel avait donné de la part de Dieu l'ordre de tuer tous les Amalécites et tout ce qui leur appartenait. Verset 3. Mais Saül épargne leur roi, laisse le peuple garder les meilleures bêtes et donc désobéit clairement à Dieu. Saül commence par nier sa désobéissance au verset 13. Puis il se justifie au verset 21 en accusant le peuple. C'est à cause du peuple, c'est le peuple. Finalement, après que Samuel parle des conséquences de son péché, l'Éternel te rejette comme roi. Saül reconnaît son péché, mais demande à Samuel, et non à Dieu, de pardonner son péché. Ça, c'est intéressant. Il s'adresse à Samuel, dit « pardonne mon péché ». C'était le Dieu de Samuel, comme nous l'avait dit Michel, et non le sien d'une certaine manière. Ensuite, Saül s'accroche au manteau de Samuel, il se tourne vers l'homme pour obtenir miséricorde. Et enfin, au verset 30, Saül montre sa vraie motivation, plaire aux hommes, restaurer son prestige, c'est une fausse repentance. L'un cherche la restauration de sa relation avec Dieu en s'humiliant, David, et l'autre cherche la restauration de son honneur devant les hommes. C'est là toute la différence entre les deux rois. Maintenant, je vais maintenant demander à Colette de lire, ou plutôt de rendre vivant, le psaume 51, car il est mentionné clairement dans le préambule qui a été écrit suite au péché de David envers Uri et Bathsheba. On peut lire qu'il a été mis en musique puisqu'il est mentionné au chef des chœurs.
À toi, Colette.
Ben, tout le psaume. Oui, je pense. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, on vous a mis une petite musique.
Cela réjouit mon cœur de lire ce psaume parce que c'est l'un des psaumes dans lequel j'ai pris connaissance de mon péché lorsque je me suis convertie, lorsque j'ai donné mon cœur à Jésus. C'est ce psaume qui est venu par rapport à mon péché, mon propre péché. Bien sûr, il n'est pas question ici. Je voulais le déclarer devant l'Église et le pasteur a dit non, non. Non, avec moi. Et tu prends le psaume 51. Alors, donc j'ai expérimenté dans ma vie ce psaume totalement. Alors, je suis là dans l'expérience du vécu de ce psaume. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon, efface mes torts. Tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Oh, purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. Ne regarde plus mes fautes, tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Ainsi, je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi qui es le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors par mes chants, je proclamerai ton salut. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai, car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi, holocauste et offrande totale, et l'on offrira des taureaux sur ton autel.
Merci Colette. Alors, ce qui me frappe le plus, c'est que d'environ la moitié du psaume, nous voyons le désir ardent de David d'être purifié, lavé de son péché et que son péché soit effacé. J'ai noté 8 fois cette demande insistante à Dieu. Remarquez qu'il ne demande pas au Seigneur de pardonner son péché, c'est déjà fait selon la parole de Nathan. Quand Nathan lui a répondu, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Donc il savait qu'il était déjà pardonné. C'est intéressant cette histoire. Donc c'est déjà fait. Mais il ne pouvait vivre avec le lourd fardeau de son péché, le poids de la culpabilité qui pesait sur lui. Verset 5, mon péché est constamment devant moi. Rappelons-nous ce passage du Nouveau Testament. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Chapitre 1, verset 9. On voit qu'il y a 2 étapes distinctes, le pardon et la purification. Plus le péché est grave, plus la difficulté de sortir de la culpabilité, de se pardonner soi-même est grande. Verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. L'hysope était une branche d'un arbrisseau qui servait au sacrificateur à faire les aspersions du sang des animaux. David annonce déjà la purification des péchés par le sang de Christ, puisque le sang des animaux ne pouvait pas purifier du péché. David avait également déjà goûté si souvent à la grâce de Dieu et à sa bonté. Il savait qu'il ne pourrait vivre sans cette relation étroite avec son Seigneur, loin de sa présence. Efface mes fautes, rends-moi la joie de ton salut, ne me retire pas ton Esprit Saint, verset 13, témoigne de cette révélation de la Nouvelle Alliance. D'ailleurs, les psaumes, comme me rappelait Michel, sont souvent rattachés au Nouveau Testament. On voit dans la Bible des Gédéons, par exemple. David aimait la présence du Seigneur, une chose que je désire ardemment, habiter dans sa maison, rester dans sa présence, psaume 27. C'est pour cela qu'il avait fait construire ce tabernacle de David, distinct du tabernacle de Moïse, auquel il n'avait pas accès, n'étant pas de la tribu de Lévi. Donc à nouveau, pour retrouver sa relation avec Dieu, David savait que son péché devait être pardonné, c'était déjà fait, et son cœur purifié, lavé de toute culpabilité. Si nous n'avions pas le psaume 51, nous n'aurions pas eu connaissance avant l'heure d'une vraie repentance vécue de l'intérieur des tribus de David, un modèle inspirant pour les croyants de la Nouvelle Alliance. Je trouve cela extraordinaire qu'il nous ait été donné de voir le fond du cœur de David, le cri du cœur de cet adorateur, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange ». Verset 18, David avait compris par révélation 10 siècles avant la naissance de l'Église que les sacrifices d'animaux ne pouvaient purifier la conscience du péché. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, versets 2 à 4, l'auteur nous dit que les sacrifices d'animaux ne peuvent ni purifier la conscience, ni ôter le péché. À l'époque de David, les Israélites obtenaient le pardon, mais n'étaient pas lavés, purifiés dans leur conscience, leur mémoire. Au verset 5, toujours au chapitre 10 du livre des Hébreux, nous lisons au sujet de Jésus. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ce passage préfigurait donc le sacrifice de Jésus. On peut voir cela aussi dans le psaume 40. Donc ce que David a dit, Jésus l'a repris aussi. On l'a repris au sujet de Jésus, qui n'a désiré ni sacrifice, ni offrande. Je reviens au psaume 51, verset 19. Nous voyons que David avait compris qu'un cœur contrit, repentant, a bien plus de valeur et d'efficacité que le sang des sacrifices des animaux. Dans la contrition, il y a des remords, de la souffrance pour son péché vis-à-vis de Dieu, pour la séparation que cela entraîne d'avoir blessé son cœur et celui des autres. Je crois que plus nous avons goûté à sa présence, plus l'éloignement à cause du péché devient insupportable. Le fait de perdre cette communion est bien plus que la seule connaissance intellectuelle de notre désobéissance. On peut se poser la question, mais qu'est-ce qui a pu amener cette métanoïa, ce changement radical de pensée, qui a fait passer David au sujet du meurtre d'Élie de, je cite, « David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab, ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Ah, j'ai péché. » Même si la repentance reste une décision de notre volonté, une repentance n'est pas seulement la simple conscience intellectuelle de notre péché, il faut aussi que notre cœur soit touché. Je me souviens avoir participé à une réunion de prière. Une sœur est saisie par le Saint-Esprit et réalise fortement qu'elle a manqué d'amour. Le pasteur, qui était Nicolas Guillet, nous encourage alors à être sensibles à ce que Dieu était en train de faire. J'ai pour ma part voulu me repentir sans être convaincu de péché par le Seigneur. Étonnamment, je me suis senti repris fortement pour cela, pour avoir fait cela. Du coup, j'ai été convaincu de péché, de m'être repenti à la légère, d'une façon mécanique. Cette expérience a été marquante pour moi. Des années plus tard, dans une autre réunion, plusieurs demandaient pardon pour leurs péchés respectifs en pensant que cela était une repentance, mais comme le dit l'expression française, le cœur n'y était pas. La demande de pardon était sans doute sincère, mais on ne sentait ni remords, ni souffrance d'avoir offensé le Seigneur, ni tristesse selon Dieu. C'était un peu mécanique. J'étais vraiment frustré d'assister à cela. J'ai cherché le Seigneur à ce sujet tellement mon cœur était peiné, et je crois que le Seigneur m'a répondu en me disant qu'il ne peut avoir de repentance, de métanoïa, si le cœur n'est pas touché. Ensuite est venue la confirmation biblique, très très importante, comme disait Michel, qui m'a été donnée avec les versets suivants. Et je vous demanderai, si vous voulez bien, d'ouvrir le livre des Actes au chapitre 2. C'est un verset quand même qu'on oublie parfois, mais qui est intéressant. Donc c'est après le discours de Pierre. Hein. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » En réponse à cela, Pierre leur dit, « Repentez-vous. » On voit bien dans ce passage le lien entre le cœur vivement touché et la réponse évidente pour Pierre, « Repentez-vous. » Autrement dit, vous êtes dans la condition idéale pour vous repentir. Quand l'Esprit de Dieu nous convainc de pécher, il y a cette tristesse, ces remords, et c'est lui qui produit cette tristesse, qui est la sienne, comme on l'a déjà vu. On ne peut produire cela par nos propres forces. Dans le livre de Joël, chapitre 13, nous voyons « Déchirez vos cœurs et non vos habits, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. » Là, on voit bien aussi que le Seigneur attend que nous allions plus loin qu'une repentance qui se limite aux apparences, déchirer ses habits, qui était un signe de deuil, d'humiliation. Dieu ne veut une repentance qui se limite au religieusement correct, mais avec un cœur déchiré, brisé comme David. Cependant, Dieu seul peut juger de la sincérité de notre cœur. On peut rajouter d'autres passages qui n'utilisent pas les mots cœur, mais qui le sous-entendent. Il y a ce passage auquel je viens de faire référence. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort, 2 Corinthiens 7, verset 10. Le cœur de Zachée, touché par l'amour de Dieu quand Jésus s'invite chez lui, il est convaincu de péché et peut être ainsi conduit à la repentance qui est manifestée par la restitution multipliée par 4 de ce qu'il avait pris injustement. Mais il a été touché par l'amour de Dieu, mais convaincu de péché en même temps. David savait intellectuellement qu'il avait péché, adultère et meurtre, mais ce n'était que lorsque Nathan a raconté une histoire liée à son univers et à l'injustice qu'il s'est mis violemment en colère. Son cœur a été touché par l'injustice, cela l'a préparé à reconnaître sa propre injustice. La repentance comme la foi est donc une question de cœur et pas uniquement d'intellect. Dans Romains 10:10, il nous est dit « En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. » Je voudrais maintenant donner une définition de cœur d'un dictionnaire biblique. La pensée hébraïque concevait l'homme comme un tout avec la somme de ses attributs physiques, intellectuels et psychologiques. Elle plaçait le cœur au centre de contrôle de tout cela. Ainsi, les termes modernes de caractère, personnalité, volonté, pensée, émotion captent quelque chose de la signification profonde de cœur dans son utilisation dans les Écritures. On voit aussi dans le psaume 32, verset 4, à quel point le Seigneur lui-même fait peser sa main sur lui pour que David confesse ses péchés afin qu'il revienne dans sa relation à Dieu. Comme disait Michel, le cœur du Père est aussi blessé de cette séparation et il désire ardemment que nous revenions à lui. Donc je cite le psaume 32, « Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. » Revenons au psaume 51, verset 7. « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Ma mère m'a conçu. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Michel me rappelait que dans ce passage, certains y voient une naissance hors du mariage de David. Mais on pourrait aussi y voir, dans ce verset, David rappeler à Dieu sa faiblesse en tant qu'être humain. De notre côté, même après que le Seigneur ait agi dans nos vies, il y a des domaines sur lesquels il nous faut particulièrement veiller. Je pensais aux trois domaines principaux qui ont été à l'origine de la chute de beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu, malheureusement. La convoitise liée à l'argent, aux possessions, bâtir un trésor sur terre, l'amour de l'argent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La convoitise du pouvoir, la jouissance du pouvoir, la gloire d'une position d'autorité, la recherche de reconnaissance, le fait d'être élevé aux yeux des hommes, et enfin, la convoitise sexuelle à l'origine de la chute de David. Bref, l'argent, la gloire des hommes, le sexe, on peut aussi y ajouter le sectarisme qui guette chaque assemblée ou individu. La Bible nous dit que le cœur de l'homme, notre cœur est tortueux. Souvent, on ne connaît pas pleinement notre cœur. On ne sait pas tout ce qu'il y a dedans. Et la verset de Jérémie 17 nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître ? Même nous. Parfois, nous sommes conscients de certaines failles, mais nous négligeons le fait que nous sommes dans une guerre avec des puissances spirituelles, beaucoup plus méchantes que nous ne l'imaginons. Sans la protection du Seigneur liée à notre humilité, dans le sens de conscience de notre dépendance, nous sommes des proies faciles. Et je voudrais raconter une histoire en fait, qui m'a marqué particulièrement. C'était une histoire qui raconte la chute de certains télévangélistes, donc des évangélistes qui avaient des chaînes de télévision aux États-Unis dans les années 80, je crois. Et cet homme disait que ces évangélistes qui ont chuté pour la plupart au travers du péché de l'argent et du sexe en particulier, sont montrés du doigt du haut de la chair par des responsables d'église. Ceux qui les ont exposés, critiqués, condamnés, sont tous tombés quelques années plus tard dans les mêmes péchés. Le fait de condamner durement, publiquement, ces télévangélistes revient à dire « Ces choses-là ne pourraient pas m'arriver à moi. Je suis meilleur qu'eux. » Rappelez-vous Pierre qui, humainement parlant, était un homme courageux, puisqu'il a pris l'épée et tranché l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur pour défendre Jésus. Il s'était vanté, même si ceux-là te trahissent, moi, jamais. Vous connaissez la suite. Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. J'ai besoin de la protection de Dieu. J'ai besoin de rester dans l'humilité et de dépendre de lui si je veux être capable de résister aux puissances méchantes qui veulent notre chute. C'est intéressant que ce même Pierre a repris ce proverbe dans l'une de ses lettres. Revêtez-vous d'humilité. C'est un proverbe, quand je dis repris ce proverbe, c'est-à-dire que c'est un des proverbes de Salomon. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose ou résiste, selon les traductions, aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quelqu'un a dit, je préfère que toutes les armées du monde me résistent, plutôt que ce soit Dieu qui me résiste. Notre réponse doit être comme David. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Une des leçons que nous apprenons en écoutant David dans les psaumes est qu'il avait conscience de ce qui se passait dans son cœur, à l'intérieur de lui, dans ses émotions, la frustration, la colère, l'angoisse, la culpabilité. David est un tel modèle dans ce domaine aussi pour les croyants depuis 3000 ans. C'est là où quand Dieu nous dit « arrêtez » dans le psaume 46, cela prend tout son sens pour moi. On sait, comme l'a rappelé Sylvain Frémont, que le confinement a été une occasion de nous arrêter et de nous tourner vers Dieu. Nous voyons souvent dans les psaumes David répandre son cœur devant Dieu et à la fin être rempli de foi et d'espérance en levant son regard vers lui. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Pour garder son cœur, j'ai besoin de passer du temps dans sa présence et laisser le Seigneur me montrer ce qui est à l'intérieur de mon cœur. J'apprends dernièrement encore plus à me décharger sur lui, de mes craintes, anxiétés. Notre besoin de nettoyer notre cœur est au moins aussi vital que nettoyer nos corps, nous laver. Concernant le pardon, nous en avons régulièrement besoin. Soyons attentifs à ce qui sort de nos bouches. Parfois, quand nous parlons d'une personne et que nous sentons qu'il y a de l'animosité, de la rancune, de l'amertume, veillons à pardonner, à nettoyer nos cœurs. Au verset 20 du psaume 51, nous voyons que David a conscience que son péché a affecté aussi le peuple de Dieu. Évidemment, ça c'est mon interprétation, évidemment, plus nous voyons, plus nous avons d'influence, plus notre péché ou notre chute va affecter le monde. Si mon peuple, celui sur qui est invoqué mon nom, ou porte mon nom dans cette version, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, et je pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Dans ce verset bien connu, Dieu dit que la guérison de notre pays, ou le réveil, qui sont liés, est conditionnée par la repentance de son peuple quand nous nous détournons de nos mauvaises voies. C'est donc une repentance arrivée à son terme, manifestée par des actes. Parfois, les mots ne suffisent pas. Quand nous voulons manifester une repentance sincère, c'est ce à quoi nous exhortait déjà Jean-Baptiste dans Luc 3, « Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude, votre repentance. » Il y a souvent besoin d'actes qui manifestent ce qu'il y a dans nos cœurs. On essaie de réparer les dégâts de notre péché, que notre péché a causé, comme David. Pour terminer, j'aimerais que nous comparions deux passages, si vous voulez bien. Donc 2 Samuel 11, 1, qui dit « L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël, semer la dévastation chez les Ammonites, etc. etc. » Et on voit qu'en fait, les versets suivants parlent de son adultère. Versets donc 2 et suivants, de 2 Samuel. Maintenant, si nous prenons le livre des Chroniques au chapitre 20, qui a été écrit après 2 Samuel, mais qui raconte la même histoire, vous pourrez remarquer que, en fait, l'adultère de David a disparu. Le Seigneur a littéralement effacé son péché. Il a répondu aux prières de David, à ses supplications, d'effacer son péché. Alors qu'au chapitre suivant, le chapitre 21, son péché sur le dénombrement d'Israël y figure bien. Voilà.